de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Vendredi 10 février 2023, il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants. Nous sommes dans ce studio où nous sommes connectés avec vous par le biais de Radio Lumière à Nerra, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, mais dans le monde entier par les médias numériques. Ebene Radio, Radio Gameli, la chaîne YouTube, l'application Canal FM. C'est grâce aux techniciens, ils ont pour nom Gérard Kodjo Akucha et Datevi Thomas. J'ai autour de moi ici trois confrères, Thierry Kwame Afanoukwe de Gapola.net. Bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Ce n'est plus Gapola.net, hein, c'est .tg.
Vous savez,
compte tenu de la nouvelle loi.
Oui.
Donc, on a migré vers .tg.
Merci pour cette migration. Yao Olivier Adja de Harakiri à Free Press. Bonjour.
Bonjour, Sass. Bonjour aux auditeurs, auditrices. Bonjour. Aux confrères de Radio Partenaire, Radio Gameli, Ibn Radio et toutes les radios partenaires de Canal FM.
Merci. Francesco Kossi Gbande Napokura. Bon, lui-même il est là, mais comme son organe est suspendu pendant 2 semaines, je ne le mentionne pas, mais vous le reconnaissez. Franco, bonjour ou bien Apoya, c'est selon.
Bon, à la FIA.
À la FIA.
Nous saluons les chaleureuses auditeurs, auditrices de la nouvelle génération Canal FM.
Notamment ceux qui nous écoutent sur les flancs de la montagne Bassa, en pays Ntcham, c'est ce que vous dites?
Effectivement, en pays Ntcham, et puis la ville des 7 collines aussi à Takpamé. Je salue particulièrement mon ami Boyodé de Radio La Paix.
Oui. Et puis, Madame Odédé, la grande dame Éco-Conscience TV, qui est avec nous aujourd'hui, Akouvi Djatoubé Roland Aziaka, bonjour.
Sos, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui.
Je suis vraiment heureux de vous avoir autour de moi. Pour paraphraser quelqu'un, vous ici autour de moi, vous êtes mon père, vous êtes ma mère qui ne sont plus, mais qui m'ont fait dans ce monde il y a déjà quelques décennies et qui m'ont donné des noms, Kodjo Tété, et puis ça grandit, c'est devenu Sas, Kodjo Tété, Innocent, Gaou, Gatragasi, Gegledo, Sosu, Vifan, Bolo, Adjrala, Maïto, Toto, Assignons à Vodanou, Domodomozan, Chocholoza, Wenua Baleka, Gottlob, Egoulou. Je ne sais plus pour dire, Franco, c'est un 10 février que Kodjo est depuis.
Joyeux anniversaire et
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday.
Allez, anniversaire.
Merci. Que Dieu te comble de tout le bonheur du monde.
Dieu m'a placé dans les spermes de mon père, qui les a placés dans le ventre de ma mère, et puis je suis arrivé. Mais c'est vous qui me faites au jour le jour. Ça a commencé par les familles Gaou et Kpogo, Amegan et Haoutoué. Ça a continué par les grandes familles de Haoutoué, d'Adangbe, de Lomé, de Djévié. Mais les enseignants qui nous ont formés depuis l'école primaire publique de Haoutoué, le CE de Haoutoué, lycée de Djévié, université du Bénin. Et puis je continue le parcours avec vous dans la presse, si je ne m'abuse. J'amasse une certaine expérience, n'est-ce pas, Franco?
Ah oui, énorme. Et ça, j'avoue et j'assure que votre sens de diriger les débats.
Je suis seul, Franco. Oui. Je te tutoie.
Bon, ok, ça viendra. Donc, vous faites preuve de grand pragmatisme. Et puis, il y a beaucoup dans la jeunesse, surtout dans les écoles de journalisme, qui ont envie de vous connaître et de que vous veniez partager avec eux cette expérience que vous avez. Parce que quand on parle de la presse togolaise, on voit, on entend ce que vous faites de visu, mais ce que vous faites dans l'ombre pour la presse et même entre les acteurs, que ce soit les journalistes et même des acteurs politiques, c'est énorme. Sauf qu'au Togo, le travail ne paye pas forcément. Mais bon, je dis toujours...
Le travail va payer. C'est pourquoi les pères du Togo ont mis comme devise « Travail, liberté, patrie ». Cette sagesse que nous acquérons au jour le jour, ça nous inspire même la pensée du jour. Yatoube, la pensée dit que la sagesse vient avec les expériences et la réussite avec la persévérance. Oui. Encore une fois, la sagesse vient avec les expériences et la réussite avec la persévérance.
Oui, c'est une grande pensée. Et s'il te plaît, si tu peux m'envoyer ça, je vais mettre ça sur mon statut. Et c'est une pensée qui me marque particulièrement aujourd'hui. Et qui est aussi ton jour d'anniversaire. Ça, aujourd'hui, publiquement, je voulais te témoigner ma gratitude parce que vous étiez, bon, c'est pas vous, tu es une source pour la jeunesse dans la presse togolaise. Et je peux témoigner, je suis un témoin vivant de cette source-là parce que quand j'étais bébé et j'étais rentrée dans la presse togolaise, le jour où j'étais rentrée dans ton bureau, j'étais toute bébé. Et on m'a introduit. Tu m'as dit, Roland, je veux te voir très loin. Tu m'as fait une prophétie. Et aujourd'hui, je suis dans cette prophétie qui se réalise. Et je veux profiter de cette journée qui est ta journée de naissance. Te dire un grand merci. Que Dieu te comble, te bénisse. Parce que tu fais beaucoup pour la presse togolaise.
Merci. Laissez-moi échapper au piège de l'émotion, s'il vous plaît.
Je ne savais pas que notre Kojo sait faire les prophéties. Félicitations à lui quand même. Je crois qu'il y a une surprise pour vous.
Ah bon?
Ah oui.
Merci. J'avoue que je me perdais un peu dans mes noms. Balika. Me rappelle que j'ai oublié deux prénoms. Hassan Haïm Mordechai. C'est dire que nous sommes vraiment ensemble. Merci à bien le club de la presse, la grande dame ODD Eco Conscience TV, qui nous a conviés à une cérémonie hier à l'hôtel 2 février. Eco Conscience TV qui ouvre une nouvelle page aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, sur le monde des communes du Togo, n'est-ce pas, Yatoubé?
Oui, tout à fait. Éco-conscience a grandi dans 7 ans et quand on grandit, on doit grandir avec de l'expérience et devenir plus sage et plus impacté. Donc, au départ, on est plus à l'international. Maintenant, nous voulons plus être plus local, un média de proximité. Et ce projet qui est financé par l'Agence française de développement et piloté par le CFI, et Agence France de développement média. Donc, le projet s'appelle la plateforme participative en appui à la décentralisation au Togo. C'est un projet qui est sélectionné sur 700 dossiers africains. De ma promotion, on était 14 pays de l'Afrique francophone. Et j'étais la première jeune femme à bénéficier de ce programme au Togo. Et hier, on l'a concrétisé avec le lancement officiel de la plateforme qui est déjà disponible. Une application mobile pour faire le zoom sur nos communes. Parce que, si vous savez, la décentralisation, pour moi, est un nouveau processus. Pour moi, je ne l'ai pas connu. Comme je l'ai dit hier, je suis née en 87 et l'avant-dernière élection remontait à 87. Depuis 87 à 2019, pour moi, en tant que jeune et dans le média, je crois que les médias doivent jouer un grand rôle de la co-construction et surtout sur la thématique sur laquelle je travaille, l'environnement, c'est d'abord la gouvernance locale. Et aujourd'hui, quand on prend par exemple l'intercommunalité, ça s'exprime très bien à travers les questions environnementales. Une forêt qui est partagée, par exemple, entre deux communes, il faut l'intercommunalité. Il faut qu'il y ait la co-construction pour que les deux communes puissent gérer cette ressource naturelle. C'est de ça nous parlons. Et c'est ça notre
système. Ainsi, Éco-Conscience s'offre et offre cette plateforme-là de visibilité aux 117 communes. Et déjà, hier au lancement, une convention de partenariat a été signée par Éco-Conscience et la commune
Ogoutroie,
chef-lieu Gléhi.
Oui.
Mais dans la salle, il y avait également des représentants des communes Kosa 1, Kosa 2, Lac 1.
Oui, normalement, la liste devait être élargie. Mm-hmm. Et dans les jours à venir, nous sommes très disponibles à élargir la liste parce que notre ambition, c'est d'avoir toutes les 117 communes et travailler ensemble. Et c'est un forum pour les citoyens. Et là, parce que la participation citoyenne est la clé du développement local. Et nous devons le faire ensemble.
Merci. Eh bien, il y a ce projet que porte le gouvernement et qui a été réitéré par le ministre d'État, Paya Doua Boukwesi, au préfet et au maire avant-hier, qui porte désengorgement des voies publiques. L'opération va commencer effectivement le 15 février prochain. Ça va commencer par les mises en garde, les amendes. À partir du 23 février, les bulldozers pourront commencer à enlever les conteneurs placés aux abords immédiats des grandes voies bitumées de Lomé, enfin des communes du Grand Lomé et d'ailleurs. Et sûrement que nous aurons les échos de cette opération de la part des citoyens.
Tout à fait.
Sur la plateforme Éco-Conscience TV.
C'est l'objectif et c'est pas seulement critiquer, c'est pas un forum pour critiquer. Et comme je l'ai expliqué hier, il faut qu'on arrive, d'abord nous voulons expliquer qu'est-ce que c'est la décentralisation de terre à terre pour que chaque citoyen comprenne ce qui se passe. Nous allons partager les informations sur les tests réglementaires où et les citoyens peuvent avoir accès à ces tests. Même nous allons décrypter ces tests-là pour les rendre plus accessibles, plus faciles à comprendre par les citoyens. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous allons faire des interviews des experts, des maires, des citoyens, tous ceux qui apportent une valeur ajoutée à la construction du développement durable, local, durable des communes. Et le troisième volet, c'est le forum où le citoyen peut s'inscrire. Il s'inscrit et puis il y a une modération impartiale dehors et derrière avec Éco-Conscience TV et le citoyen peut réagir sur le plan climat, par exemple, de sa commune, comment il comprend. Il peut même solliciter des questions et que nous pouvons remonter vers les communes et les cellules de communication des communes pour éclairer et essayer de faire cette co-construction ensemble.
Merci, voilà. Franco. Nous nous plaignons que nos trottoirs sont envahis par des kiosques, des commerces. On ne sait plus où marcher. Et puis, cette information qui a commencé à circuler, que le ministre de l'Agriculture a réitéré, qu'à partir du 15 février prochain, l'opération va commencer, des sensibilisations, mises en garde. mais à partir du 23 février, et comme l'écrit le journal L'Humanité, hein, un balai de bulldozers dans les communes pour enlever les conteneurs, les kiosques que les gens ont érigés, hein, aux abords des voies. Et le ministre Boupessi disait que la première partie va concerner les grandes voies bitumées des communes de Lomé, peut-être de tout le Togo.
Vous savez, cette histoire, bien sûr, hein, nous ne faisons pas l'apologie d'occupation de la voie publique ou des trottoirs, mais en allant le faire, il faut le faire humainement, parce que les populations vivent dans des conditions de détresse et extrêmes. Hein, et ces kiosques, surtout sous forme de conteneurs, qui sont déposés par minimum de 600 000, hein, le conteneur. Donc, imaginez quelqu'un qui a pu faire un truc comme ça, déposer en temps, lui a donné confiance, puisque les mairies passaient pour collecter et les taxes, et du jour au lendemain, on ne leur donne pas, disons, une idée de là où ils vont aller s'installer. Et subitement, c'est des bulldozers qui vont passer pour les dégager. Et bientôt, après la commune, les grandes voies, le projet va s'étendre vers les petites ruelles, et je me dis que nous avons de la matière, hein, à faire, parce que c'est des problèmes qu'il faut poser et analyser avant d'agir. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que le pauvre citoyen et qu'il faut continuer de le repousser jusqu'à son dernier retranchement. J'espère que les kiosques de la Chambre du commerce qui sont déposés le long de la clôture de l'université, puisque c'est des kiosques aussi, on en voit également autour du stade de Kara, et dans les environs, j'espère qu'eux aussi seront concernés, parce qu'il s'agit aussi des...
Mais à ce niveau-là, Franco, il faudra faire le distinguo entre les kiosques qui sont déposés dans des espaces aménagés pour cela, et d'autres kiosques qui sont déposés plutôt sur les trottoirs.
Vous avez vu au niveau du marché
de la voie.
Vous avez vu au niveau du marché acier, là où les pauvres dames se débrouillaient pour vendre leurs petits condiments, on est venu les chasser plutôt. C'est la Chambre du commerce qui est venue occuper l'espace. Et quand vous voyez le trottoir qui est là-bas, même le trottoir, les gens marchent sur, disons, les rigoles, d'accord, les fermetures des rigoles, qui sont par endroits des trous et des pièges dans lesquels les gens tombent. Donc, il faudrait que la municipalité, l'État, pense également à couvrir véritablement nos rigoles, hein, qui sont des lieux d'accident pour des populations, hein, que seulement de vouloir chasser des gens dans leur dernier retranchement.
Je veux réagir suite à ce que Franco a dit. Et c'est là, je dis, que notre projet est pertinent, et je crois qu'on ne doit pas oublier le rôle des médias dans cette décentralisation. Parce qu'il faut, vous avez dit, la sensibilisation. Il faut la conscientisation. Il faut que le citoyen aujourd'hui togolais se sent concerné. Vous parlez des rigoles, mais qui sont ces gens qui bouchent ces rigoles? Ce sont les mêmes citoyens. Il faut que les citoyens prennent... Il y a une responsabilité partagée.
J'ai parlé des rigoles, pas des rigoles, parce qu'il y a des ordures dans les rigoles. J'ai dit qu'il y a des...
Laissez-moi terminer. Il y a une responsabilité partagée.
Oui.
Et les municipalités, et nous les citoyens, nous devons co-construire, c'est ce que je dis.
Oui.
Le citoyen doit savoir que rigole mettre en place, c'est pour sa propre protection. Il ne faut pas mettre les ordures dedans.
Oui.
Voilà.
En fait, vous dites la même chose. D'un côté, il faut sensibiliser, informer. En même temps, il faut que chacun développe une conscience civique et citoyenne pour savoir qu'un acte qu'on pose ici, ça peut nous rattraper nous-mêmes ou les autres. Allons maintenant au sujet qui défraie la chronique depuis quelque temps, et que nous sous-titrons en deux parties. La première partie, c'est la corruption et les mauvaises pratiques. Thierry et Olivier, vous avez suivi les reportages hier quand le nouveau président de la APUSIA a prêté serment devant la Cour suprême. Et à l'occasion, le président de la Cour suprême, hein, dont la langue est vraiment fleurie, le président Abdoulaye Yahya, qui disait hier au serment, je le cite, tel que le canard indépendant le reprend: après le football, la corruption est le second sport national au Togo. Et avant la prestation de serment, le même président Yaya disait au président de la A plus Y au cours d'une audience mardi que le président de la A plus Y devrait sensibiliser la chancellerie, sensibiliser son propre bureau contre les démarcheurs qui installent la corruption dans les formations sanitaires, même dans les cimetières. Et pour le président Yaya, les démarcheurs s'apprêtent même à corrompre Dieu pour s'acheter des places au paradis. C'est pour dire que la corruption, c'est le sport national tel qu'il le dit. Et autre pratique également, c'est le télégramme du Togo qui s'inspirant du rapport sur la COVID se demande « Eh Dieu, va-t-on s'en sortir un jour ?» C'est le coup de gueule. Et puis, autre pratique anormale, nous avons appris cette semaine que le conseil d'administration de l'ITIE vient de suspendre le Togo pour défaut de transparence, pour défaut de transmission de rapport. Le même confrère qui écrit « L'impunité ou le terreau fertile des crimes financiers ». Et pendant ce temps, cette semaine même, on a vu le gouvernement et ses partenaires lancer un nouveau projet de bonne gouvernance financière porté par l'Allemagne. C'est pour une efficacité dans la gestion des finances publiques. Thierry et Olivier, voilà comment la corruption est vraiment omniprésente dans les débats et dans les fêtes ces derniers jours. Thierry?
Oui, je crois que la corruption, c'est la tache noire, ou je dirais indélébile, du règne de Faure Gnassingbé. Depuis qu'il est là, les scandales ne font que s'enchaîner. Et à chaque fois, on essaie de dédouaner ceux qui sont concernés ou impliqués dans ces crimes financiers et économiques. Et ça continue. La preuve, nous tous, nous étions tombés des nues quand hier, le gouvernement a sorti son communiqué concernant le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds COVID. Et aujourd'hui même, on ne sait plus quoi dire, de peur d'attirer la foudre des gens sur soi, parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Mais on ne veut pas qu'on en parle aussi, c'est ce que j'ai compris par rapport au communiqué du gouvernement. En tout cas, tout est clair, ça a repris les conclusions des hauts fonctionnaires de la Cour des comptes qui ont audité ce fonds-là. Et c'est dommage pour notre pays parce que c'est comme ce matin, je vous disais que, en réalité, vous devrez aussi devenir riche dans cette affaire-là. Parce que dans votre studio ici, quand cette affaire de Covid a surgi, c'était tout un ballet de ministres, de médecins, d'acteurs politiques, administratifs et tout ce qui va avec, qui défilaient ici chaque jour que Dieu faisait presque. Ils étaient là et ils parlaient de Covid. Mais malheureusement, vous n'avez rien eu. Ou bien, pendant ce temps, les gens ont été payés doublement pour une même activité, une seule activité, ils ont été
mais
payés.
Mais Thierry, on va revenir au rapport sur la COVID, mais le phénomène de la corruption,
oui, c'est
avec le nouveau président de la APUSIA, que le gouvernement a dû dépêcher expressément du GIABA pour l'installer à la tête.
Il ne fera pas plus que son prédécesseur, puisque ceux qui connaissaient son prédécesseur disaient de lui que c'était un magistrat rigoureux,
intègre
et tout, mais
tout ce temps qu'il a passé à la tête de cette institution-là, il n'a rien fait que de sensibiliser. Et peut-être qu'il a déposé les rapports au niveau du parquet, mais le parquet ne s'est jamais saisi. C'est ça aussi le drame de notre pays.
Oui.
En principe, la justice doit être notre dernier rempart. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui fait que la population se tourne souvent vers la presse quand ça ne va pas. Mais quand la presse aussi veut faire son travail, on lui tape sur les doigts. Et vous voyez, c'est la société que nous avons. Malheureusement, on continue. Bon, le chef de l'État, le président de la République, Faure Gnassingbé, en tout cas, il connaît ce avec qui il est et comment les gens sont habiles de prendre des largesses avec le dernier public. Donc, c'est à lui de tirer.
Merci. Olivier, donc je rappelle que le nouveau président de la APUCIA a prêté serment hier. Dans ce contexte où la dénonciation de la corruption revient, avec les propos que répète à chaque fois le président de la Cour suprême pour s'en prendre à la corruption, aux corrupteurs, aux corrompus, aux démarcheurs et consorts. Et c'est dans ce contexte que, pas plus tard hier, le gouvernement et son partenaire, l'Allemagne, ont lancé le nouveau projet de bonne gouvernance financière. Olivier, tu suis bon regard?
Oui, c'est très bien.
Alors, est-ce que tu sens quand même que quelque chose est en train de bouger dans le sens de la lutte contre la corruption concrètement, avant qu'on arrive au rapport sur la COVID?
Non, vous savez, le principe, c'est que la corruption est un outil de sous-développement. La corruption ne peut jamais permettre à un pays de décoller. Et c'est pourquoi, de par le monde entier, les gens mènent une lutte sans merci contre ce fléau et qui empêche les hôpitaux d'être dotés en matériel de qualité, qui empêche les localités d'avoir de l'eau potable, qui empêche tout simplement le développement. Donc, c'est vrai, on ne peut pas nier que la corruption n'existe pas dans nos pays, dans notre pays. Et elle existe et c'est visible à l'œil nu. Et maintenant, nous avons aussi des structures, des institutions qui ont été installées pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Et c'est une bonne chose. Vous avez d'abord l'appareil judiciaire dans son ensemble, qui est un outil efficace pour lutter contre la corruption. Les autorités ont trouvé encore nécessaire de créer une institution qui s'appelle APUCIA pour venir en soutien à la justice. Et il y a d'autres structures en place. Mais la question est de savoir si ces structures sont efficaces. Nous avons vu depuis 2015, la APUCIA a travaillé. Et le bilan est là. Et nous tous, nous l'apprécions. C'est qu'aucun dossier n'est allé jusqu'au bout pour ouvrir le champ d'un procès. Et alors qu'il y a eu beaucoup de scandales. Donc, ce sont des questions qu'on se pose sur la volonté manifeste du gouvernement, des autorités, d'aller vers une lutte sans merci contre la corruption. Et on ne peut pas chérir la corruption. On ne peut pas faire des concessions avec des corrompus. Il est impossible de développer notre pays dans cette situation. Et maintenant, au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité de la justice qui est posée. Bon, il y a un haut magistrat qui l'a dit que les magiciens sont corrompus. Ce n'est pas moi qui le dis. Il l'a dit. Entre-temps, il l'a dit encore lorsque le nouveau président de la APUCIA est allé. Et il les a qualifiés de tellement corrompus qu'ils sont prêts à corrompre même Dieu. D'accord. Donc, ça prouve que le problème est connu. Et maintenant, quels sont les outils que nous allons utiliser pour pouvoir combattre ce problème? Moi, j'estime que c'est dans l'impunité. L'outil de l'impunité, donc, est un outil efficace. L'outil de l'exemple, punir des gens pour donner l'exemple à d'autres apprentis, à d'autres, à ceux qui aspirent, à d'autres aspirants, donc, de la corruption, ça permettra de décourager bon nombre. Mais lorsque les gens passent par les mailles du filet, lorsque les gens ont le sentiment que lorsque ils font mal, ils n'ont pas Il n'y a pas de risque. Ils n'ont rien à craindre. Vous voyez que ça ne peut faire que le lit de la corruption. Maintenant, le dossier en cours. Moi, je salue la sortie du gouvernement.
Si nous allons y arriver. Encore un petit mot sur l'impunité dont le confrère, le télégramme de Togo, dit que l'impunité ou le terreau fertile des crimes financiers. Franco, comparaison n'est pas raison. Mais en Ukraine, quand il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait des allégations de détournement des ressources en Ukraine, on a vu le président Volodymyr Zelensky sévit quitte à démettre des chefs militaires, des membres dans son cabinet. C'est pour signifier à son peuple que halte à la corruption et en même temps un signal fort aux partenaires que la confiance va toujours régner entre ses partenaires à ce qu'ils continuent à aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.
Oui, ça, les partenaires du Togo, est-ce qu'ils sont des aveugles? Ils ne sont pas des aveugles, ils sont dans notre pays. Et aussi voir ce qui se passe. Et quand vous savez ce qu'on appelle la communauté internationale, lorsque des fonctionnaires internationaux viennent dans nos pays et leur mandat vient à la fin, ou bien ils ont peur qu'on les renvoie, ils pleurent. Ça veut dire que c'est un pays qui est rentable. Hein. Les gens, ils nous proposent, ils nous montrent les mêmes rapports. Le même rapport que le gouvernement montre que j'ai fait tel dans la savane, c'est le même rapport que pratiquement tous les partenaires nous montrent. Qu'ils ont fait. Finalement, on se demande qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, en fait, c'est un maillon, hein, c'est une spirale dont on ne trouvera jamais la fin. Et les collègues l'ont dit, hein, on dirait qu'on est dans la promotion de la corruption. Et quand vous voyez, c'est pas que les gens ne sont pas efficaces. Le juge Bouyoudi, on le savait, c'était un gars qui était bon au tribunal, mais peut-être que au lieu de faire sa promotion à l'époque, on a préféré l'envoyer au garage. Et celui qui vient d'arriver de l'extérieur, que tout le monde applaudit.
Tu parles de Wiyao plutôt.
De Wiyao plutôt. Celui qui vient d'arriver, on l'a applaudi. Mais au lendemain de l'applaudissement, c'est-à-dire que nous ont dit de voir le timing de sa nomination par rapport à la sortie du rapport de la Cour des comptes, mais on se rend compte qu'on vient de lui tirer une balle dans le pied parce qu'il ne peut pas véritablement, je ne vois pas, parce qu'il n'a pas une brigade. Et pour lutter contre la corruption, on l'a dit, Olivier Adja l'a dit, nous avons une justice. Créer un département de la justice qui s'occupe des crimes économiques. Sinon, si vous créez commission anticorruption, vous créez chose, c'est pour rétribuer juste des gens parce qu'ils n'auront rien à faire.
Merci. Venons-en maintenant au dossier du moment. C'est le fameux rapport d'audit que la Cour des comptes a dressé sur commande du gouvernement et qui défraie la chronique depuis bientôt 2 semaines. Mais le confrère L'Échiquier conclut le débat avant même l'introduction avec ce titre « Corruption Togo, rien à signaler ». Et continuons maintenant avec le confrère L'Humanité qui écrit « Gestion 2020 des fonds Covid-19, un scandale de trop ». Autre journal encore, L'Échiquier qui revient sur... qui parle lui aussi de soupçons de fraude portant jusqu'à près de 39 milliards de nos francs CFA. Autre journal encore, Télégramme du Togo qui prend un aspect, à savoir le logo de la lutte contre la COVID-19 qui aurait coûté 15 550 000 francs CFA. C'est là que le journal s'écrit « Eh Dieu, va-t-on s'en sortir un jour ?» Et puis également, les télégrammes donnent la parole à certains acteurs politiques, notamment le député Jerry Taman, le président du parti Nathaniel Olympio, avec ce titre « Clarification et situation des responsabilités plus que vitales ». On a vu même le député Abbas Kaboua s'exprimer sur une radio et souhaiter vivement qu'on alla plus loin dans ce rapport. Autre journal encore, Atopani, info qui à la page 3 écrit, sévit pour demain, pendant que le canard indépendant le canard indépendant, le temps que je retourne dans mes papiers. Oui, le canard indépendant, lui, écrit « Rapport explosif de la Cour des comptes, Fort Nassingbé à la barre hein, ». Le journal va jusqu'à voir un remaniement ministériel d'envergure hein, en vue. Hein, c'est le rêve ou la prophétie hein, du canard indépendant. Mais l'évêque de la nation, lui, parlant du même rapport écrit, ces précisions de taille hein, que ne mentionne pas le rapport. Pour dire que hein, c'était dans un contexte où les gens avaient dû faire des choses dans la précipitation et que toutes les preuves n'y auraient pas été, mais que ce n'était pas la volonté de détourner. Si je me résume ainsi. Et puis, le confrère Togo Réveil qui écrit « Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. » Et puis hier, le communiqué du gouvernement est sorti pour dire, pour prendre acte du rapport, mais pour dire que globalement, la Cour des comptes aurait dit que tout se serait bien passé. Olivier Adja, si j'ai bien compris le rapport, le communiqué du gouvernement sorti hier.
Oui, je crois qu'il y a les écrits et les interprétations, il y a les faits donc, et les analyses. Et les faits, c'est que la Cour des comptes a sorti un rapport et la Cour des comptes a relevé qu'il y a des dépenses qui n'ont pas été justifiées, qui n'ont ni quitus fiscal, ni carte d'opérateur économique, ni même contrat ou du moins appel d'offres. D'accord ? Ce sont des éléments. Et la Cour des comptes a demandé aux gens de justifier, d'accord, de justifier ces dépenses. Et dans sa conclusion, elle a dit, et j'ai pas bon mémoire pour citer, mais que les dépenses sont sincères, bon, et d'autres adjectifs. Mais l'appréciation et le ressentiment des populations aussi est autre par rapport à la réalité sur le marché, par rapport aux procédures qui sont exigés par l'État, on se demande si tout cela ne cachait pas, voilà donc, une certaine magouille. D'accord ? Le gouvernement, et d'abord il faut saluer le ministère de la Sécurité qui, je crois, le premier a envoyé une lettre d'explication par rapport à une certaine dépense à son niveau. Et même si les gens se posent la question de savoir ce montant qui est mentionné, c'est-à-dire 50 millions, pour aménager des bureaux, est-ce que c'est sincère? Mais au moins, ce que la Cour des comptes a demandé, ce ministère l'a envoyé.
A pu justifier.
Donc, entre l'analyse que nous allons faire et ce que la Cour des comptes demande, voilà donc, il y a quand même des éléments d'appréciation. Aujourd'hui, le gouvernement est sorti avec un communiqué. C'est bien, même si, à mon avis, c'est tard, c'est quand même bien que le gouvernement puisse au moins se prononcer, parce que je m'étais posé la question, je crois, ici, en se demandant, mais depuis que ce rapport est sorti, qu'est-ce que les gens attendent pour au moins monter au créneau? Parce que nous connaissons ceux qui ont géré ces fonds. Et certains sont des professeurs, certains sont des docteurs, certains, en tout cas, leur image est en jeu. Ils devraient venir.
Il y a des militaires.
Ouais, certains sont des militaires dont la probité est connue. Donc,
est supposé connu.
Donc, on se demandait qu'est-ce qu'ils attendaient au moins pour offrir ce que la Cour des comptes demande. Aujourd'hui, c'est plus ou moins fait par l'entremise de ce communiqué du gouvernement. Et maintenant, c'est les faits. L'appréciation, c'est que ça nous laisse sur notre soif. Ça nous laisse sur notre soif en ce sens que il y a des lignes quand même de dépenses qui sont en déphasage de la réalité du terrain. D'accord ? Et donc, en tant que citoyen, à qui ce communiqué est adressé ? En tant que citoyen, à qui ce rapport est adressé ? Et que nous pouvons apprécier, nous avons une capacité au moins de compréhension, on se pose des questions. On se pose des questions et ces questions-là doivent être répondues. Soit par le gouvernement ou les entités qui ont géré ces fonds, soit par la APLUSIA, qui normalement, à mon sens, devrait se saisir de ce dossier pour continuer le travail que la Cour des comptes a fait. Et ainsi, on ne va pas peut-être faire des appréciations sur l'émotion du citoyen, mais sur des faits qui ont été produits par des institutions bien
établies. Je rappelle que le tout premier journal à part de ce rapport, c'est le journal Liberté, en date du 30 janvier, avant la suspension. Le deuxième journal, c'est l'Union, en date du 31 janvier. Et depuis le 30 janvier jusqu'à hier, l'unanimité est faite que c'est des dénonciations sur des irrégularités. Et c'est hier, 9 avril, soit une dizaine de jours après les journaux.
9 février,
soit une dizaine de jours après les premiers journaux que le gouvernement a sorti son communiqué. Alors Thierry, le communiqué du gouvernement est là. Je vous livre quelques extraits. Je le cite. En résumé, le rapport atteste que les ressources mobilisées, ainsi de suite, ont été utilisées conformément aux clauses des accords. Le gouvernement dit encore que le paiement des dépenses inscrites dans le budget de l'État est conforme. Trois points de suspension. Toujours le gouvernement, les mesures économiques et sociales prises en vue de soulager la population, tout ça là, ont été appliquées dans la transparence. Je continue. Les commandes publiques ont été effectuées conformément aux procédures de passation. Les dépenses relatives aux mesures barrières ont été conformes. Et Thierry, aussi bien dans le communiqué du gouvernement que dans la sortie du porte-parole du gouvernement sur une chaîne de télé, on a justifié que le riz, ça a été acheté pour soulager les populations, que ce n'était pas détourné, que les fonds Novici n'auraient pas été détournés, que les engrais n'auraient pas été détournés. Bon, c'est les justifications que le gouvernement apporte au rapport, si bien qu'on a l'impression, si nous, les journaux, enfin, les médias et l'opinion et le gouvernement, si nous parlons vraiment du même rapport.
Mais c'est que je n'ai même plus envie de parler de cette affaire-là, parce que mais ils avaient ces justificatifs-là, pourquoi quand la Cour en faisait la demande, ils n'ont pas mis ces pièces-là à la disposition de la Cour. Mais le gouvernement, dans le communiqué, disait, entre autres, qu'il n'y a pas de velléité de détournement. Mais comment il n'y a pas de velléité de détournement quand vous confiez un marché qui a une structure ou bien à une entité qui n'est pas enregistrée au CFE, qui n'a pas de quitus fiscal, qui n'a pas de qui n'a pas d'appel d'offres. Où est la traçabilité de l'opération effectuée? Quelle est sur la base de quelle expertise on a attribué le marché à la structure ou bien à l'entité?
Mais le gouvernement dit que c'était dans un contexte
où
il fallait aller vite, mais parer au
péril. Mais quand même, soyons sérieux. Et le Covid n'était pas propre ou spécifique au Togo. C'est comme ça que les autres pays aussi l'ont fait. C'est comme ça que les autres pays aussi ont passé les marchés. C'était un truc mondial. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce qui se passe ici, c'est... Alors que pour un petit marché, on vous dira que le trésor ne peut pas vous payer si vous n'êtes pas au réel avec TVA. Mais dans ce cas, il y a même on a confié des marchés à des structures qui ne sont pas enregistrées au CFE. Mais à qui on a confié des centaines de millions? Sur la base de quelle expertise? Non, mais on n'a pas besoin de choses là pour savoir qu'il y a manifestement des détournements. C'est clair. Mais s'ils ont toutes ces preuves, par exemple, le gouvernement parle aujourd'hui, à ce même gouvernement, la Cour des comptes a demandé des clarifications. Il n'était pas en mesure de mettre ces pièces-là à la disposition. Je crois qu'il y a le gouvernement, la primature et le ministère de l'économie numérique. Ils n'ont pas donné d'éléments à la Cour. À la Cour. C'est parce que ça parlait trop, ça allait dans tous les sens, qu'on a décidé finalement de faire quelque chose pour arranger les choses. Dans tout ce lot-là, nous qui avons presté, nous les médias, nous on n'a pas été payés. Mais voilà le drame. Alors que tout le monde avait sa part. Mais nous, le peu qui nous revenait, on a beau crier, mais personne ne nous regardait. personne ne nous regardait. C'est vraiment.
Merci. Comme disait le. C'est très délicat de parler de ce sujet. Après la sortie du communiqué du gouvernement,
j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici.
Quand j'ai suivi le ministre Ayouadan sur New World TV hier, je vais demander sincèrement si nous parlons du même rapport de la Cour d'audit, si c'est la parole de l'un contre l'autre, alors que je le disais jusqu'à hier, l'unanimité dans les médias, sur les réseaux, dans tout le monde,
mais
c'est
ça,
que c'était des condamnations. Je rappelle que des acteurs politiques comme Abbas Kabwa, comme
eux aussi ne sont pas épargnés, parce qu'à l'Assemblée nationale, les députés demandaient des facilités pour aller sensibiliser. Donc peut-être qu'on n'a pas écrit ça noir sur blanc, mais certainement ça doit faire partie d'une ligne quelque part. Il demandait des facilités pour aller sensibiliser.
Bon, je ne sais pas si la
compte en a parlé. Ils ne sont pas épargnés.
Je le disais au plateau hier, c'est que quand tu prends le rapport de la Cour des comptes, quand tu les lis, il y a des moments où tu as l'impression de t'énerver devant des monstruosités. Mais déjà, quand on vient à la conclusion du rapport lui-même, c'est comme si la Cour lui-même refroidit un peu les ardeurs qu'on avait développées dans le rapport. Je ne sais pas si tu as la même impression, mais quand on va dans les détails, sur certains aspects, la Cour dit clairement que certaines exécutions de dépenses ont créé des manques à gagner à l'État.
On a commandé des caméras à un certain nombre d'années. C'est seulement un homme qui est livré. Mais on a payé la totalité.
Oui.
C'est dans le rapport.
Oui, Franco.
Dans un rapport.
On dit qu'il n'y a pas d'étourement.
Dans un rapport d'audit, il y a les procédures. Il y a les procédures qui sont d'abord les premières choses. Et l'auditeur doit visiter ces tests-là. Et ça a été fait. C'est par rapport à ça qu'ils ont relevé qu'il y a des manquements en matière de justificatifs et autres. Et pire encore, on a appelé les gens de venir justifier. Ils ne se sont pas peinés d'y aller.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, tout le rapport ne peut pas être faux. Il y a des éléments dans le rapport qui peuvent être vrais. C'est pourquoi cette conclusion. Sinon, dans tous les rapports d'audit, il y a ce genre d'aspect. Maintenant, l'unanimité est claire. Mais quand nous prenons le communiqué du gouvernement, c'est que nous revenons à l'art de gouverner de Machiavel. C'est-à-dire que la bombe qui est partie premièrement par la Cour des comptes a livré, disons, les membres du gouvernement au public. Vous avez suivi le lynchage partout, sur des réseaux sociaux, et partout. Donc, là, c'est que nous sommes dans une année électorale. Le chef a besoin de ses lieutenants. Donc, par ce communiqué du gouvernement, il dit, je suis le seul, votre protecteur. Ah oui. Sinon, je vous livre à la vendue populaire. Donc, vous êtes obligé de me garantir les prochaines élections et vous êtes protégé. Et si vous suivez même Abbas Kabwa, il dit tout le monde est justiciable au Togo, sauf dès que lorsque quelqu'un déclenche la manette. Donc, il montre aujourd'hui que c'est lui le patron. La preuve, un journal a écrit Fornia Sibé à la barre. C'est lui seul qui peut déclencher pour dire voilà. Ce rapport, nous avons suivi également le ministre de la Communication sur le fait que, par exemple, la cargaison du riz, les engrais ont été livrés aux sociétés ou bien pour pouvoir vendre au public. Si c'est vendu, ça veut dire qu'il doit y avoir une contrepartie qu'on doit revoir en tant que ressource dans le
budget. Alors que attends, là aussi, il y a problème parce que l'engrais, depuis un certain temps, c'est le gouvernement seul et seul
qui le vend. Laissez-moi terminer. Si tant est que j'accepte qu'on dise qu'on a acheté l'engrais pour mettre à la disposition des sociétés privées, pas pour donner, puisque le gouvernement a exclu que l'engrais et le riz n'ont pas été donnés.
Mm-hmm.
Ça fait déjà 13 milliards de francs CFA. Et donc, ça veut dire que normalement, quelque part, dans le budget du Togo, nous devons retrouver cette partie, puisque nous sommes dans un système comptable, partie double. La contrepartie doit se figurer quelque part dans les recettes de l'État. Mais malheureusement, lorsque nous avons visité les différentes lois de finances, les budgets, les lois de finances, on n'a vu nulle part les retours de fonds sur vente de riz et d'engrais. Où est-ce que la vente faite aux sociétés, l'argent là est passé par où? Ça, c'est un chemin encore pour la Cour des comptes, puisque je dis que c'est un travail exploratoire que la Cour des comptes a eu à faire. Quand vous prenez même l'aspect riz, nous, on s'est amusé un peu même, hein, on a dit 9 milliards et puis 413 millions pour la manutention. Nous avons calculé un peu le cours des riz par rapport, on trouve, non, les 800 et quelques millions de riz. Bon, le prix est convenant, on était autour de 14 000, 15 000 le sac. Ok. Maintenant, lorsque nous prenons la facture Bolloré, et qui est manutention, qui doit être manutention bord et manutention terre, nous avons déjà retrouvé qu'il peut y avoir, hein, puisque quand nous avons, selon les chiffres, hein, des barèmes portuaires, nous avons retrouvé qu'il doit y avoir un écart de plus de 100 millions sur la soit. On a, comme c'est Olam qui a fait l'opération, on a facturé Olam qui nous a refacturé, donc qui a ajouté peut-être certainement sa marge. Quand nous prenons le logo, le fameux logo que notre confrère a mis à la une, c'est très important parce que ce logo, nous l'avons envoyé aux spécialistes, d'accord, pour nous dire c'est quel type de logo. On nous a dit que les trucs de Covid là, comment on les appelle, voilà le logo, c'est-à-dire
le virus,
on est parti le prendre sur internet, et puis le lion, c'est une partie de la moitié de la République qu'on a coloré en rouge, c'est ça. Mais quand vous voyez entre le lion, le rouge et l'image du Covid, ça n'a pas de voilà, ça ne marche pas ensemble. Et que même ça, si c'était un concours et que nos étudiants qui sont dans les écoles, même débutants, ne peuvent pas proposer un tel logo.
On a lancé le concours, d'accord, pour le logo, de logo pour le PMD, c'était à combien?
Et quand nous avons demandé combien on peut facturer ce logo, mais d'abord la note a donné, il y a un qui a donné 3 sur 10, l'autre a donné 4 sur 10. Et quand nous avons demandé combien on peut payer ce logo, maximum c'est 15 000 francs CFA.
Non.
Oui, excusez-moi, non. Et vous savez, quand on veut faire un travail, il faut le faire de façon technique. Ce logo, on peut, c'est-à-dire donner ça aux spécialistes de nous évaluer. Alors que c'est ce qui a été payé à 15 500 000. Vous voyez, donc un logo qui peut être à 10, 15 000 et à 15 500 000. Donc ça, c'est technique, c'est des choses, ça existe. Envoyons pour que les gens analysent, pour que les spécialistes analysent, pour nous donner des commentaires, évaluer et autres. Bon, pour les transferts...
Eh bien, Franco, on ne va pas finir. Olivier, on va seulement conclure que pendant 2 semaines, les médias ont informé sur le rapport avec les irrégularités qui ont suscité désapprobation, condamnation ici et là. Mais depuis hier, le gouvernement dit que, pour lui, la Cour dit que tout a été bien fait, seulement que le gouvernement va en profiter pour mettre en chantier... les réformes que la Cour souhaite. Alors, est-ce que tu penses que le débat est clos sur ce rapport?
Non, je crois que peut-être qu'au niveau du gouvernement, ça peut être clos par ce communiqué, mais au niveau de l'opinion, je ne crois pas du tout, puisque le communiqué, quand bien même, donc ça a été fait, moi je salue le fait que le communiqué soit sorti, mais est-ce que ça satisfait toutes les attentes des populations? Et je ne crois pas. Donc, j'aurais bien préféré que le gouvernement, après avoir relevé tout ce qui a été relevé, dise quand même que néanmoins, une commission donc d'enquête ou voilà, une commission va être mise en place où les enquêtes vont se poursuivre pour pouvoir voir sur les 186 milliards et quelques ont été débloqués, si quelqu'un par hasard n'a pas oublié quelque chose dans sa maison ou dans sa voiture. Puisque ça, on ne peut pas dire que dans la gestion de cette somme, tout a été parfait. Ce n'est pas possible. Même en France et en Occident...
Mais tu as lu le communiqué du gouvernement hier.
Je dis que j'aurais préféré ou j'aurais aimé qu'après que le gouvernement ait dit tout cela, puisse ajouter que les portes ou bien les fenêtres sont ouvertes pour poursuivre une enquête, soit une commission. Vous savez, les commissions ont pour rôle, voilà donc, de gérer les affaires comme on le peut. D'accord. Donc, ça aurait peut-être satisfait une partie de l'opinion que, quand bien même le gouvernement s'est expliqué, il y a quand même des enquêtes qui vont se poursuivre pour voir si des gens n'ont pas oublié des lave-mains, des gels dans leur maison ou dans leur voiture, qui appartiennent à l'État. D'accord. Bon, tel que ça a été tranché, on a l'impression que c'est pour seulement couper court. Donc, au débat, et dire que, bon, voilà, il n'y a plus rien à dire, circuler, quoi.
Comme quoi, les chiens ont aboyé, mais finalement, la caravane est en train de passer. Sinon, je rappelle que le rapport, la Cour des comptes n'a audité que l'année 2020 de ce fonds. Est-ce que le gouvernement va commanditer un audit également pour l'année 2021 et 2022? Si oui, est-ce que ce rapport également serait éventuellement disponible et quels en seraient les débats? Oui, ainsi, on va dire.
Oui, c'est ce que vous avez bien dit. Le rapport ne concerne que 2020. Il y a 2022 et aussi voir. Pour l'instant, on n'a pas vu les traces des vaccins. Les vaccins, on nous a voilà, on veut parler aussi des respirateurs. On devait avoir acheté 150 respirateurs. Donc tout ça, là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais vous savez, comme on le dit, il faut faire le deuil de tout ça et comprendre que c'est pour l'avenir. Et prions pour le Togo.
Oui, juste placer encore un mot. C'est le danger, c'est que cette affaire de Covid, en réalité, n'est pas finie au Togo. Parce que toutes les restrictions ne sont pas levées. Elles sont juste mises en veilleuse.
Nous sommes encore sous loi d'urgence sanitaire.
Voilà. Donc, ça dit que si demain ça reprenait, on va aligner les mêmes. Bon, c'est.
Oui, la preuve, le CHLME commune n'est pas encore mis à disposition de l'opinion.
Les députés ont demandé.
On va quand même terminer avec le forum des producteurs agricoles, dans le chapitre 3. Se joue actuellement dans la région des plateaux à Takpamé, tel que le journal L'Union nous en parle. C'est environ 600 producteurs des 12 préfectures de la région des plateaux qui sont concernés. Cette région, par excellence productrice de fruits, de produits vivriers, de produits de rente, et également la pêche, même si on note ces dernières années que la région des plateaux connaît de nombreux problèmes qui entraînent une baisse drastique de la production. Fornia Singbe était à Dapaon, il était à Thiévier. Olivier, peut-être qu'il va aller également à Takpamé demain samedi pour la clôture des plateaux.
Oui, pourquoi pas. Et c'est une très bonne initiative, et mon cher ami Sass. Et le FOPAC, bien sûr, son ancêtre, je crois, le Forum des paysans, a fait aussi donc ses preuves et a disparu. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le FOPAT qui permet au chef de l'État de discuter directement avec les producteurs. C'est important, donc, de discuter, d'échanger avec les populations à la base, de connaître leurs besoins et de les écouter sans intermédiaire. Parce que parfois, les intermédiaires ont cette tendance à améliorer ce que les populations leur disent. C'est un euphémisme, bien sûr, mais à arranger. Et parfois, le chef de l'État est déconnecté ou pilote à vue ou voilà donc fait de la gouvernance hors sol. Aujourd'hui, il y a quand même des échanges et un partenariat direct avec les populations. Et vous, si vous allez bien dans les enquêtes, tout ce qui s'est passé lors de ces faux pas, vous allez être surpris, mais agréablement. Parce que parfois, le chef de l'État a le courage de demander directement aux populations. Il y a eu des projets, il y a eu des tracteurs, il y a eu des choses qu'on devrait vous remettre. Est-ce que vous les avez eues? Et bon, vous connaissez nos paysans, voilà, ils disent ce qui est. Ils ne disent jamais ce qui n'est pas. Et devant ceux qui devraient partager ces tracteurs, ils disent que nous n'avons pas reçu.
Alors justement, quand le chef de l'État demande si vous avez reçu et que les gens disent non, alors maintenant, il fait quoi le chef de l'État?
Ah ben, on demande à celui qui était chargé du projet de s'expliquer devant le gouvernement et devant les populations.
Oui.
Et parfois, les gens qui parlaient bien du français ont perdu leur latin. Parfois, les gens ont perdu leur langue. Voilà cette façon de gouverner que moi, on apprécie bien. Faut pas seulement se fier au rapport des techniciens ou de vos collaborateurs. Parfois, il faut aller sur le terrain pour écouter les gens et savoir si les consignes ont été appliquées sur le terrain comme vous l'avez demandé. Et avec les producteurs, on a vu beaucoup de choses qui n'ont pas été du tout bien. Et prenez les contacts et invitez les producteurs, puisque certains sont passés sur d'autres et certains radios de la place, pour dire ce qui s'est passé et dire la vérité. Et vous allez être surpris de ce que le chef de l'État a découvert sur le terrain. Comment les milliards ont été débloqués pour des projets de développement de l'agriculture et que même un grain d'haricot, les gens n'ont pas produit avec ces milliards. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment intéressant, ces faux pattes.
Oui, Gatoué.
Ça, je m'inscris dans la même lignée que mon grand frère Olivier et j'ai suivi avec intérêt Faux Pattes et je crois que c'est une très belle initiative et surtout qu'aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux qui ont un impact sérieux sur l'agriculture et qui est notre poumon, c'est intéressant de voir des initiatives et je crois que sa première déclaration qui m'a accrochée, il a dit qu'il avait rencontré les responsables régionaux et il disait, à travers vous, il faut qu'on sente l'État. Il faut qu'on vive l'État.
Quand il avait rencontré les directeurs généraux des services déconcentrés des régions centrales, voilà. Caraïbes-Savane.
C'est ça. Et ça, c'était un message fort qu'il a lancé. À travers, c'est pourquoi, par exemple, pourquoi on parle aujourd'hui de la décentralisation? C'est-à-dire rapprocher la gouvernance et vers la base. Lui ne peut pas, il est là, il ne peut pas tout voir. Mais il faut déconcentrer et voilà, avoir cette approche locale de gouvernance.
Merci. Donc, il est midi, être... passé de 3 minutes. Voilà, pour résumer, Franco a dit quelque chose, c'est passé vite, mais je voulais rappeler. Hein, nous sommes quand même en année électorale. Ah. Il est prévu les élections régionales et les élections législatives.
Ah, okay.
Les députés qui sont en vacances pour le moment et qui vont se retrouver en session premier mardi du mois de mars. Alors, quand les députés vont reprendre session, est-ce que le rapport de la Cour des comptes aura vécu comme ça?
Non, parce qu'on va faire une promesse.
Ou bien, est-ce qu'il y aura une certaine vie?
Je dis, ils sont aussi dedans. Est-ce qu'ils pourront se faire arracher?
Demande à TV, la pause et puis nous rebondissons avec les auditeurs. 93.5 Canal FM. Oui, chers amis auditrices et auditeurs, vous nous avez écoutés pendant près de 60 minutes. C'est nous maintenant qui sommes disposés à recevoir vos commentaires et vos questions. Nous vous prions juste de vous limiter au sujet que nous avons exposé aujourd'hui. Demain, il y a déjà un auditeur. Oui, bonjour l'ami.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gado.
Monsieur Gado.
Bon, je voudrais demander un conseil au plateau. Vous dénoncez, nous on dénonce. Est-ce qu'on fait du mal au chef de l'État ou bien on est en train de l'aider? Répondez-moi ça, merci.
Je vous en prie, monsieur Gado, je vous dis seulement que chacun fait son travail en son âme et conscience. Le rapport est là, il est en français assez facile. Je suppose que tous ceux qui ont le niveau BPC peuvent comprendre ça. Eh bien, maintenant, au niveau de l'interprétation, c'est chacun en son âme et conscience. Oui, le suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Joyeux anniversaire.
Ah, merci beaucoup, Sylvain.
Je passerai dimanche à l'Ogoté, assister à la messe et après la messe, on verra.
Nous allons prier surtout.
Oui. Et ça, l'autre fois, je vous disais, on n'aura rien à mettre sous la dent. On va dénoncer. On se limite toujours à la dénonciation. On n'aura rien. Vous m'avez dit que vous ne comprenez pas. Parce que c'est le chef de l'État qui a commandité cette vie. Il va réagir. Voilà sa réaction.
Non, Sylvain, attends. C'est le gouvernement qui a sorti le communiqué hier. Je pense qu'entre le gouvernement et le président de la République, il y a quand même une certaine différence, une certaine nuance à distinguer.
On verra.
Mm. En tout cas, je continue à croire que ça ne peut pas passer comme ça, ce rapport aussi.
L'alternance s'impose au Togolais.
En fait, moi, je ne parle pas d'alternance, moi, je parle du suivi du rapport de la Cour des comptes. Merci. Le suivant, bonjour. Allô, l'ami? Allô? Il est en ligne, mais il n'a pas le retour, peut-être. Oui, bonjour.
Ouais, Tosse, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, comme vous nous imaginez ici au studio.
Que Dieu bénisse tout le plateau là-bas. Hein.
Merci.
Bon, Tosse, vous savez, nous sommes là à faire combien de temps sur la terre? J'ai l'habitude de le dire et le réitère que nous sommes là pour un petit temps que le Togo appartient à une personne. Bon, vous savez, je reviens sur le rapport ou bien ce que le gouvernement a sorti ce matin. Mais vous voyez, depuis 4 mandats, s'il vous plaît, mon grand frère Fornia Singbe, qui est le papa de tous les Togolais, n'a arrêté personne. Il faut qu'il gère la nation comme son père l'a géré. Vous voyez, ne gérons pas un pays, il est en train de protéger ses amis. Et oubliant que c'est Dieu qui l'a laissé là où il est, il a un compte à rendre à Dieu. Je le réitère. Parce que la Bible dit, hein, tout ce que nous le faisons bien, parce qu'il y a un compte à rendre à Dieu un jour. Mais aujourd'hui, sache, je connais un ami que vous le connaissez, je vais mettre son nom. Il a un hôtel vers Védi, tout ça, là, il a des choses, le représentant de Dangote au Togo. Un jour, j'ai la chance, la grâce de Dieu, de le rencontrer, il me dit, mais Seigneur, tout ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Un jour, je partirai, mais c'est ça. Mais demain, il sera enterré demain, vous allez le voir dans son cercueil. On l'a bien habillé, mais il n'a même pas de chaussures au pied. Nous sommes nés avec quoi, nous partirons avec quoi. Mais il faut que... Mais c'est comme les gens croient que je peux tout faire, hein. Je peux voler, je peux tout faire le jour. Bon, de ma mort, on appelle le pape François de venir, on appelle les pasteurs, ils vont prier, et mon paradis est garanti, ça c'est faux. C'est ici après le salut, après la mort, c'est ici que tu vas faire bien, en aidant les gens, en soutenant qu'on aide le Seigneur avant de... Personne ne mange pas, les autres pleurent. Merci. Je m'arrête ici, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup l'ami Senghor. Qui passe le témoin au suivant, qui s'annonce déjà, n'est-ce pas? Bonjour.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Monsieur Waris.
Monsieur Sass.
Oui.
Je salue nos chers invités. Je dis bonjour à Dimas et Dikodo qui nous écoutent.
Ah oui, notre Dimas.
Oui. Bon, et concernant, depuis hier, nous avons un nouveau président à la tête de Aplusia.
Oui.
Donc, nous pensons, nous leur souhaitons bonne chance et nous pensons qu'il aurait beaucoup appris des erreurs de l'équipe sortante. Puisque quand vous prenez l'équipe sortante, nous avons, ça nous donne des remarques négatives. Puisque ces temps qu'ils ont fait, on n'a pas de grand-chose. À part certains tournées, certaines sensibilisations, on n'a pas de grand-chose. Donc, je pense que c'est un résultat qui a accouché un petit lézard. Bon, monsieur Saf,
oui.
Le fonds détourné, de fonds destinés à la COVID qui a été détourné. Je pense que le chef de l'État doit être interpellé. Puisque, M. Sass, c'est nous les citoyens qui subissons les effets de ces détournements. Puisque jusqu'à nos jours, nous n'avons pas des scanners dans nos hôpitaux. Et on me dit des milliards qui sont disparu facilement comme ça, monsieur Sass.
Monsieur Harris, vous lisez le communiqué du gouvernement qui dit que l'argent n'a pas disparu.
L'argent est où? Bon. Vous êtes les finalistes, vous êtes mieux informés que nous.
Non, monsieur Harris, nous avons les mêmes communiqués du gouvernement.
Bon, je laisse la place à nous.
Merci beaucoup. Enfin, le communiqué du gouvernement est là. Le gouvernement dit que la Cour dit que tout est bien fait. Seulement, ils vont mettre ils vont faire quelques réformes. Maintenant, c'est comme chacun comprend. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, Johannes.
Bon, en fait...
Oui, allez-y, Johannes.
Oui.
Oui, le temps à la radio un peu... Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Ce rapport est suffisamment... contient suffisamment d'éléments... pour que, c'est-à-dire que je pense que même plusieurs émissions spéciales ne suffiraient pas. Mais je pense que on a besoin que, même parce que pas plus tard que ce matin, j'écoutais une radio, avec les débats qu'on a suivis toute la semaine, on pensait que l'essentiel des éléments que contient le rapport était, et vous, les journalistes en ont parlé suffisamment. Mais ce matin, ça dit qu'à chaque jour, il y a des, on se rend compte qu'il y a des éléments dans le rapport qui méritent d'être divulgués. Je me dis que ça serait bien que, au moins une émission spéciale soit organisée à, pour décortiquer réellement le rapport, juste pour les éléments qui contiennent, que contient ce rapport, voilà, que ces éléments soient décortiqués pour que réellement on se rende compte de ça.
Merci. Est-ce que le traitement de ce rapport, c'est seulement dans les médias, sur les réseaux sociaux, ou bien est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui doivent entrer en jeu ailleurs, pour des choses comme ça? On sent des associations, des ONG ou bien des personnalités qui est en justice, ne serait-ce que pour tester notre appareil judiciaire. Au Sénégal, par exemple, les gens ont trouvé également des moyens de se faire entendre. Au Togo, est-ce que nous contentons des médias, des émissions, et que après le communiqué du gouvernement, c'est fini ou bien il y aura une suite?
Alors, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est ici.
Ici, oui.
Voilà. Il y a Apricia, il y a la Cour des comptes qui a enfin parlé pour 2022 seulement.
Oui.
Et il reste 2019, 21 et 23 pour cette histoire de Covid. Et puis voilà, pour cela qu'il est impératif d'alterner dans une république. Sinon, ça devient une dictature. Et au bout de pas mal de temps, elle comment on dit ça? Ça dit, elle rejette, voilà, elle rejette ses des vues sur l'opposition qui la combat. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Après avoir appauvri la population, maintenant on rejette le tort sur l'opposition qui combat la dictature. Soit disant qu'on l'a corrompu, machin, tout ça. Et puis, il y a eu 700 milliards, je crois, au début, pour cette histoire de Covid. 700 milliards, dons. Alibaba et plein de personnes sont passées nous faire des dons, qui sont passés inaperçus. Il y a le PCR qui engendre des milliards par jour, je pense. On n'a jamais rendu compte. Et ça demeure toujours. On prend le PCR chez les gens. Et en gros, avec l'histoire de Covid, ça a été phagocyté par les soldats. C'est les soldats qui ont géré cette histoire de Covid jusqu'à présent. Et donc voilà. Si. Il faut qu'on leur demande des comptes.
Merci, Essie.
Alors, merci. Et c'est toi qui fêtes l'anniversaire?
Oui.
Rapide, ben, alors.
Merci beaucoup. Mais Essie,
rapide, oui.
Mais par quel canal maintenant nous allons continuer à demander des comptes à ces messieurs, à ces dames?
Il faut que la population se porte partie civile pour porter plainte, enfin.
Oui.
Pour les mandats, nos limites aussi, pour tout, quoi. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas nombreux, le pays est immensément riche, qu'on pourra vivre heureux ici. Mais bon, ben, on est dans la disette, on est appauvri et puis tout le reste.
Merci beaucoup. Merci. Et si nous allons prendre le dernier auditeur, puis nous faisons le tour de conclusion ici. Oui, bonjour. Allô, l'ami. Il est là, il n'a pas le retour. Ok, eh bien, Franco, Thierry, Olivier, Diatoubé, c'est une forme de résignation que je sens. Aussi bien entre nous ici, communiquer également disons aux auditeurs, mais j'espère que je me trompe bien, que cette affaire n'est pas finie comme ça, Franco.
Non, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à grand chose. C'est quand même dans même ces résultats, je ne les ai pas en tant que tel commentés. Mais c'est que, au fait, on vient de nous mettre aux yeux du monde entier. Voilà, comment nous sommes gouvernés, d'accord, avec un climat des affaires très reluisant, avec tous les tests qui sont pour premier élève la bonne gouvernance partout, et c'est aujourd'hui qu'on veut réapprendre et à remettre sur pied les choses. Malheureusement aussi, des grandes personnalités que nous avons, comme celui qui vient d'arriver pour
pour Aplusia, qui remplace un autre également, malheureusement, n'aura rien de significatif à faire, puisque les institutions sont dépourvues de force. La force est à la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le procureur aurait pu nous montrer sa réactivité en se saisissant de ce dossier et en ouvrant des procédures, et qu'on serait on serait vraiment que notre État fonctionne. Mais est-il que c'est des débats que nous faisons qui restent indélébiles, qui sont dans les archives pour la postérité, de même que tous ces rapports, qu'on le veuille ou pas, peut-être demain, on l'a vu ailleurs, c'est un moment où les gens ont les dos courbés, qui ne peuvent plus se relever, qu'ils s'asseyent dans le box des accusés pour se faire juger, puisque les crimes économiques, c'est des crimes imprescriptibles. Même prescriptibles, on ne sait jamais. Nous sommes des hommes, nous sommes des machines vivantes, et c'est en même temps la mort et la vie que nous vivons. Donc, tout peut changer à tout moment. Le rapport reste un patrimoine du Togo et qui sera utilisé pour d'autres fins.
Aujourd'hui ou demain?
Aujourd'hui ou demain, ça, inéluctablement.
Un carton pour conclure la semaine?
Est-ce que j'ai un carton? Bon, pas de carton, mais le forum, comme il a dit, du chef de l'État, ça lui permet également de savoir ce qu'on dit qu'on a fait et ce que
on n'a pas fait.
On n'a pas fait. Et surtout à l'étape de Tchévi, on a des gens qui ont assisté, qui nous ont dit comment des personnalités ont été appelées devant les populations et à peine ils arrivaient à prononcer un mot. Donc aussi, c'est un exercice que tout le monde... Donc, c'est bon, on peut dire, c'est tout l'apprentissage de la démocratie.
Kwame Thierry Afankoé.
Oui, mais vous savez, nous avons de belles idées, de belles initiatives, mais la mise en œuvre pose parfois problème et c'est dommage pour notre pays. Pourquoi je dis ceci? Parce que quand nous avons lancé le programme Novici, vous avez suivi tout ce qui s'est passé par après. Ce programme était cité en exemple dans la sous-région et partout ailleurs que le Togo a fait quelque chose de spécial avec ce programme-là. Peut-être ça a inspiré d'autres pays. Mais si aujourd'hui ces personnes apprenaient que notre novicie n'était pas en mesure de fournir les pièces justificatives des transactions opérées, je ne crois pas que ces gens-là vont continuer avec ce programme-là. Ou bien eux, bon, peut-être ils seront en mesure de faire le point, parce que c'est vraiment dommage. Alors, par rapport à la rencontre entre le chef de l'État et les paysans, je crois que ce n'est rien de nouveau. Hein. Il a toujours échangé avec les paysans. C'est l'après de ces rencontres-là qui importe. C'est qu'est-ce qu'on fait des conclusions de ces échanges-là. Le chef de l'État, il a toujours échangé avec eux. Et les paysans ont toujours posé des doléances, mais quand des instructions sont données, ce problème de tracteur-là, quand en 2020, le chef de l'État avait échangé avec les cotonculteurs à Takpamé, et il a même fait don de tracteurs. Après, on a vu ce qui s'est passé avec ces tracteurs-là. Donc, si on ne sanctionne pas, mais quelque part aussi, moi, je comprends le chef de l'État, parce que si il commençait pas à sanctionner, ça va bousculer aussi son régime. Peut-être c'est pour cela qu'il laisse faire, parce que en commençant pas à sévir, il va faire des aigris, des mécontents. C'est ça qui amène les gens à réfléchir.
Thierry, dans d'autres domaines...
C'est pour cela qu'il a opté pour
Thierry,
ne pas...
sur d'autres terrains, on l'a vu sévir.
Mais de quelle manière?
Notamment l'affaire de tentative de coup d'État qui a impliqué...
C'est le seul.
Pacha Nyasimbe, disons, la mise en résidence surveillée de quelqu'un.
Oui, mais vous avez vu tout le temps que ça a fait?
et peut-être que cette personne-là était encore dans d'autres choses. C'est ça qui a amené à ce qu'il soit sous résidence surveillée.
Donc, merci Thierry. Un carton pour conclure la semaine.
Pas de carton, mais
Olivier Yawadia.
Oh, bon, pour emboîter le pas, mon cher ami Thierry, c'est de dire que les fonds dont on parle viennent de l'État togolais, mais viennent aussi des partenaires.
Des privés.
Viennent de la Banque mondiale.
Des prêts, des crédits.
Viennent des partenaires, surtout des pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc, pour le moment, je crois que rien n'est encore perdu, puisque tout ce que nous disons de détournement, vous m'excusez, mais il n'y a pas encore eu d'éléments probants ni de procès, parce que je crois que et le gouvernement encore peut rattraper le coup en faisant des enquêtes, en menant les enquêtes jusqu'au bout, pour rassurer les partenaires que non, c'était une mauvaise alerte, les fonds n'ont pas été détournés, il n'y a pas eu de magouille. On peut encore le faire parce que ces gens-là, c'est l'argent du contribuable de leur pays qu'ils ont donné à notre pays pour nous aider à faire face à la COVID, etc. Et nous-mêmes, les privés ont donné. Certains parmi nous aussi, on nous avait demandé de faire des gestes. Les gens ont donné même, et c'est quand les gens ont donné 1000 francs, les gens ont donné 500. Donc, ça, il faut nous permettre que demain, devant les mêmes situations, on puisse se dire, c'est notre pays qui est en danger. Il faut que nous contribuions. Que les citoyens ne se disent pas, ah non, on ne peut plus faire ça, parce que lorsqu'on l'avait fait, ceux qui avaient ont pris ça encore pour eux. D'accord? Donc c'est pour demain, on fait tout ça là. Il faut donner l'exemple pour que demain, nous puissions encore vivre ensemble et que les partenaires nous fassent confiance. Donc bon, carton et vert chlorophylle à notre sœur de Co-Conscience TV, qui se démarque et en tant que membre du bureau du CONAP officiellement. Je vous félicite au nom du président, au nom du CONAP, et soyez sûr, nous serons derrière vous.
Yatoué, non pas derrière, nous sommes avec elle. Elle ne m'a pas invité. Elle m'a évité.
Non.
Yatoué a posé le radical vité. C'est à toi de mettre le préfixe.
Alors, merci beaucoup. Je suis très, très touchée par les mots de mon grand frère. Merci pour tout l'accompagnement et tout le soutien. Je dis un sincère merci à tous les journalistes qui étaient là, les confrères qui étaient là pour la couverture médiatique hier et qui ont relayé l'information. Je suis ouverte à toute collaboration parce qu'une seule personne ne peut pas le faire. C'est ensemble, c'est toute la presse togolaise et je sollicite votre appui, votre soutien pour qu'on porte ce projet ensemble. Et ce sera super pour la communauté. Donc, je décerne un carton vert d'abord aux partenaires, CFI, AFD, la France et l'ambassade de France. Et à vous tous qui étaient là hier et à mes confrères.
Et que... Sûrement que tes partenaires vont t'auditer.
Oh, ça, c'est clair.
Merci.
Ah oui, ça, c'est clair. Ça ne manque pas.
Merci beaucoup. Eh bien, vous remercier. Hein. Vous êtes ma famille aujourd'hui. C'est
bon
avec vous que je me sens vraiment utile à quelque chose. Et pour le sujet qui nous a drainé toute cette semaine, j'ose croire que ce rapport de la Cour des comptes n'est pas fini. Parce que je veux continuer à croire en Faure Gnassingbé qui rêve d'un Togo émergent. Un Togo émergent mérite la confiance de nos partenaires, mais mérite la confiance de ses filles et de ses fils. Nous qui sommes assaillis par le terrorisme, par-ci, par-là, c'est ensemble que nous devons être forts pour livrer tous ces combats. Et pour livrer ces combats, il faut que nous ayons une confiance en nos institutions. Et pour y aller, Faure Gnassingbé doit nous convaincre que nos institutions ont une force, que la reddition des comptes doit être une réalité, que la transparence doit être une réalité. Ce rapport ne peut pas finir comme ça. Depuis 2012, il était sorti pour dénoncer la minorité qui s'accapare les richesses nationales au détriment de la majorité. Il ne peut pas faire croire que ce discours ne peut pas avoir de suite. Ça, ce n'est que la période 2020. Il y aura 2021, il y aura 2022, surtout pour un Togo émergent. Il y a la résignation aujourd'hui, mais j'ose croire que ce rapport n'est pas fini, que nous en parlerons dans les jours à venir. Bon week-end, nous nous retrouvons, Franco, lundi prochain,
oui.
Si Dieu le veut.
Dieu le voudra.
Le Dieu Bassa le voudra.
Amen.
Merci beaucoup.